Je m'étais trompée.
Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on est au mois de mars. Le mois de mars, c'est le printemps, le début du printemps. Alors, on l'a remarqué, vous l'avez sûrement remarqué, quand on se balade un petit peu, on voit déjà les amandiers qui sont en fleurs, mais aussi dans les jardins, parfois des mimosas qui, avec leurs fleurs jaunes, commencent à pointer leur bout de leur nez. Alors, c'est une période pour ceux qui aiment bien la nature à ne surtout pas rater. Et particulièrement quand on est en garrigue. Parce que la garrigue, c'est vrai que quand on est en plein été, dans la garrigue où il fait chaud, où les cigales emprègnent tout l'espace, du coup, la garrigue, ça peut paraître un peu austère. Et pourtant, au printemps, c'est complètement différent, c'est une explosion de couleurs, de formes, etc. Et donc du coup, on a vraiment en garrigue une période à ne surtout pas rater. Alors, pourquoi, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une telle profusion dans ces milieux-là, une telle profusion printanière ? Alors tout d'abord, on peut essayer de chercher l'explication au niveau de l'écologie des plantes de garrigue. Comme vous le savez, la garrigue, ses caractéristiques principales, c'est d'abord des caractéristiques de sol, c'est-à-dire qu'on est sur des milieux avec un sol très très mince, très très faible, sur du caillou calcaire, donc pas un milieu très favorable pour les plantes, et en plus on est dans un climat méditerranéen, donc le climat méditerranéen, c'est une très grande irrégularité au niveau des pluies et une période particulièrement chaude et sèche. Alors la concomitance à la fois de la sécheresse et de la chaleur dans cette même période qu'est en général l'été est vraiment une caractéristique forte du climat méditerranéen. Ce climat méditerranéen qu'on trouve pas que chez nous, on le trouve tout autour de la Méditerranée, mais aussi en Afrique du Sud, mais aussi en Amérique du Sud, en Californie, et un petit peu aussi en Australie. Alors, du coup, pour les plantes, il va falloir s'adapter et à ce sol très mince, très faible, et à ce climat, cette sécheresse très difficile. Alors, comment s'adapter à ces contraintes particulièrement fortes ? Alors, il y a deux grandes façons chez les plantes de s'adapter. Il y a la première, c'est survivre à la sécheresse. Et la deuxième, c'est éviter la période sèche. Alors, dans la première grande catégorie d'adaptation, donc survivre à la sécheresse, il y a plein d'adaptations possibles. Il y a celles qui ont des feuilles qui rétrécissent. C'est le cas, par exemple, du genévrier cade, qui a des feuilles qui deviennent toutes minces. Il y a celles qui vont avoir des poils qui vont pousser, qui vont permettre de retenir l'humidité de la transpiration des plantes. Il va y avoir tout un tas de méthodes, comme par exemple aussi avoir une sorte de cire sur les feuilles pour retenir l'eau et pour pas trop transpirer. Ou fermer les stomates, vous savez, ces petits trous par lesquels il y a des échanges entre l'air et la plante qui vont se refermer quand il fait sec. Ça, c'est tout un tas d'adaptations à la sécheresse de plantes. Mais il y a la deuxième grande famille, c'est celle qui tout simplement évite la période sèche. Alors, comment éviter la période sèche ? C'est faire tout son cycle, c'est-à-dire son cycle, c'est pousser, faire des fleurs, faire des graines et diffuser, disséminer toutes ces graines avant la période sèche. Donc là, il faut faire vite, très très vite. Et donc ça, il y a beaucoup de plantes en garrigue qui font ça. C'est notamment toutes les plantes qu'on dit les plantes annuelles, c'est-à-dire qui vont avoir une vie très très courte. En général, elles vont commencer dès le mois de février-mars, et puis elles vont grandir, pousser, se reproduire, faire des graines, disséminer et disparaître dès le mois de juin. Donc en 3-4 mois, il faut faire très très vite. Alors c'est les annuelles, mais c'est aussi un autre grand groupe de plantes, c'est les plantes à bulbe. Donc tout ce qui est plantes à bulbe, qu'on appelle aussi les géophytes, vont avoir pour caractéristique de faire tout leur cycle au printemps, très rapidement, tomber complètement en dormance, elles vont disparaître, même les feuilles vont disparaître pendant l'été. Et hop, à l'automne, quand il va y avoir des pluies, elles vont réapparaître, se reformer pour faire un nouveau cycle. Et donc ça, ces géophytes, ces plantes à bulbes sont particulièrement nombreuses dans les garrigues donc, et dans toutes les zones méditerranéennes. Donc dans les plantes à bulbes, il y a plusieurs espèces qu'on connaît, hein. Les iris nains par exemple sont des plantes à bulbes. Vous savez, c'est ces tout petits iris qu'on va voir dans les zones de garrigues bien sèches, avec certains des fleurs jaunes, d'autres des fleurs bleues, d'autres des fleurs blanches. Mais il y a aussi, parmi les plus précoces des plantes à bulbes, il y a celles qu'on appelle les plantes vernales, vernales de hivernales, parce qu'elles peuvent commencer leur cycle dès le mois de janvier. C'est notamment, par exemple, une plante particulièrement rare, toute petite, qui fait moins de 10 cm de grandeur, qui s'appelle l'ail petit molli. Ensuite, dans un deuxième temps, dès fin février, début mars, arrivent les narcisses. Les narcisses, alors il y a le narcisse qu'on dit le narcisse douteux, avec ses fleurs blanches au cœur jaune. Et puis arrive ensuite le narcisse à feuilles de jonc, qui lui a des fleurs jaunes. Les narcisses sont particulièrement communs en garrigue et sont de ce grand groupe des plantes à bulbes, des plantes géophytes qui font leur cycle le plus rapidement possible. Et puis arrive enfin, dès fin février, début mars, une orchidée particulièrement commune qu'on appelle la Barlie de Robert. C'est une grande orchidée assez haute qui peut faire plusieurs dizaines de centimètres de haut et qui a une couleur un peu rose pâle et qui a des très très grosses feuilles luisantes qui sont apparues, elles, depuis le mois de octobre-novembre et qu'on voit apparaître aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un peu cette grande famille des géophytes qui va exploser au printemps avec les annuels. Alors tout ça, toutes ces espèces-là qui vont essayer de faire la course pour faire tout leur cycle le plus rapidement possible avant la sécheresse, c'est ce moment-là à ne surtout pas rater quand on va en garrigue, c'est le printemps. Alors on s'écoute une petite musique justement sur le printemps.
Rien à faire, quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air, je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur, dans les nids, mes petits, c'est cosy, tout son cœur, le matin, ne rime plus avec chagrin, à midi, je n'aurai pas plus de soucis, à quatre heures, ça rime avec tartine au beurre, et le soir, ça rime toujours avec espoir, je suis content, c'est le printemps, qui vient juste après l'hiver, le voilà, youpla là, c'est joli, puis c'est pas cher, je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'elle butine, les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines, le matin, ne rime plus avec chagrin, à midi, je n'aurai pas plus de soucis, à quatre heures, ça rime avec tartine au beurre, et le soir, ça rime toujours avec espoir, je suis content, c'est le printemps, je compte les rossignols, je suis gâté, c'est congé, je n'irai pas à l'école, je suis content, c'est le printemps, pousse les petits bourgeons dans les prés, sur mon nez, pousse les petits boutons, le matin, ne rime plus avec chagrin, à midi, je n'aurai pas plus de soucis, à quatre heures, ça rime avec tartine au beurre, et le soir, ça rime toujours avec espoir, je suis content, dans les temps, il y a le nouveau des grenouilles, elles s'enlacent, elles s'embrassent, il y en a même qui se tripatouillent, je suis content, c'est le printemps, j'aurai bientôt une petite sœur, c'est maman, en chantant, qui me l'a dit tout à l'heure, le matin, ne rime plus avec chagrin, à midi, je n'aurai pas plus de soucis, à quatre heures, ça rime avec tartine au beurre, et le soir, ça rime toujours avec espoir, je suis content, c'est le printemps.
Alors, comme on le disait, c'est le printemps en garrigue. Alors, le mois de mars, effectivement, il y a des premiers beaux jours, mais il y a aussi des pluies. Il y a parfois des grosses pluies qui arrivent et qui vont durer et qui ont une particularité, c'est qu'elles vont faire que le milieu, donc nos fameux karsts calcaires des garrigues, vont se remplir. Mais, comme vous le savez, à la fois l'eau s'en va très profondément, parfois elle peut rester en surface quand on a des couches d'argile. Là, l'eau va rester et va faire ce qu'on appelle des petites mares. Des mares qu'on dit temporaires, parce qu'elles vont pas rester tout le temps. C'est des mares qu'on va trouver dans certains endroits de garrigues où on a cette couche d'argile. Ces mares sont connues depuis longtemps. Et oui, parce que de l'eau en garrigue qui va rester pendant quelques temps, c'est quand même quelque chose d'assez précieux. Et donc, notamment nos amis les bergers, qui avaient leurs moutons à faire boire de temps en temps dans les garrigues, connaissaient le lieu où on trouvait ces mares temporaires et ont eu tendance à les entretenir. Alors, à paver le sol, à paver le fond de la mare, pour que l'eau ne s'en aille pas trop vite. Et du coup, sont apparus ce qu'on appelle les lavognes. Donc les lavognes, on va en trouver régulièrement dans la garrigue, certaines parfaitement entretenues, justement. Et cet espace-là, ça fait comme une zone humide en garrigue. Une zone humide, qui dit zone humide en garrigue, dit un peu une oasis dans un désert. Et donc, naturellement, ça va attirer plein d'animaux. Et donc là, dès ce mois de mars, il faut commencer à être à l'affût de où est-ce que vont apparaître ces mares temporaires, parce que là, on va découvrir un monde complètement fabuleux. De partout, les amphibiens commencent à se réveiller de dessous les tapis de feuilles, de dessous les branchages. Ils vont se réveiller parce que c'est le printemps et qu'ils ont envie de se reproduire. Et ils se reproduisent, eux, dans des mares, dans des lieux humides. Et donc là, ils vont tous partir à la recherche de ces fameuses mares. En route vers les mares, en route vers l'amour, il faut surtout pas se rater, il faut surtout pas se perdre dans la garrigue, il faut arriver à retrouver la mare. Et donc là, ces mares vont accueillir des dizaines et des dizaines d'amphibiens qui viennent là juste pour se reproduire. Et donc on va arriver dans une mare qui est complètement en effervescence, surtout la nuit. Écoutons justement une mare la nuit. Donc pour l'oreille un peu aguerrie, quand on est en garrigue la nuit, on va entendre ce son de parfois même très très loin. Et là, plus on s'approche, plus le son est fort. Parce qu'en fait, ce sont tout un tas d'amphibiens qui sont là pour parader, pour leur parade nuptiale, pour attirer les femelles, pour se reproduire, etc. Alors, on va essayer un peu de décrire ces différents amphibiens qu'on peut trouver. Donc celle qu'on a entendue là, dans le petit enregistrement, c'est les rainettes. Les rainettes, c'est des sortes de toutes petites grenouilles, les rainettes méridionales, qui sont vert presque bleuté et qui ont la particularité lorsqu'elles font leur son d'avoir la gorge qui grossit de façon très très importante. Elles vivent souvent en groupe et ont un chant particulièrement puissant comparé à leur petite taille et qui fait qu'on les entend de très très loin. Donc la rainette, c'est la principale des grenouilles qu'on va trouver dans les mares temporaires en garrigue, mais il y a aussi tout un tas de crapauds. Alors naturellement, le crapaud commun, celui qui est le plus commun, qui est un assez gros crapaud, à la peau bien verruqueuse, qui a des yeux un peu rouge-orangés et qui marche tout doucement. Alors contrairement aux grenouilles, les crapauds sont plutôt marches. Et donc le crapaud, il faut savoir que la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Donc c'est des tout petits mâles et des très très grosses femelles. Et là, les femelles en fait vont arriver dans les mares où il y a déjà tout un tas de mâles. Et là, alors là, ça va être des ébats sexuels orgiaques qui vont se passer dans la mare avec les crapauds communs. Mais il y a d'autres crapauds que ce crapaud-là. Il y a un tout petit crapaud qu'on appelle le crapaud pélodite qui a une particularité, il a un gros museau un peu vers l'avant et il a un son un peu particulier. On dirait un peu comme deux billes de, vous savez, des deux boulards qu'on taperait l'un contre l'autre. Et les pélodites sont particulièrement communs. En fait, ils se cachent souvent sous les cailloux. Ils sont tout petits, ils se cachent sous les cailloux. Et puis là, ils vont venir eux aussi dans les mares. Et on trouve également un crapaud plus rare, celui-là, particulièrement rare, qu'on appelle le pélobate cutripède. Alors, un nom particulier d'un crapaud assez joli, un peu vert et marron, et qui a une particularité, c'est qu'à l'arrière de ses pattes, il a comme une sorte de petit couteau, un petit couteau noir accroché à l'arrière de ses pattes. Ce couteau lui sert en fait à creuser le sol, c'est-à-dire que lui, l'humidité, il va la trouver en creusant dans le sol. Donc il faut des sols quand même plutôt sablonneux ou au moins argileux, mais des sols pas trop durs, dans lesquels il va aller s'enfouir. C'est un crapaud qu'on trouve d'ailleurs également dans les arrières dunaires, dans les mares qu'on trouve derrière les dunes. Et donc il s'enfouit complètement, on voit juste à peine ses yeux qui dépassent, et puis hop, il ressort. Et donc ça fait c'est des crapauds qu'on va trouver dans les mares temporaires des garrigues. Donc tout ça, c'est un grand groupe d'amphibiens, hein, grenouilles, crapauds. Mais il y a aussi un autre groupe qu'on appelle les tritons. Les tritons, ce sont ce qu'on appelle des urodèles. Les urodèles, ce sont des amphibiens qui, contrairement aux crapauds ou aux grenouilles, gardent leur queue même à l'état adulte. Donc c'est de la même famille que les salamandres par exemple. Et donc c'est des tritons qui vivent également à l'état adulte sous des feuilles, sous des branchages et qui se reproduisent dans l'eau. Et donc les tritons, c'est particulièrement impressionnant parce qu'ils font des danses et puis ils ont leur corps qui se modifie pendant la période de reproduction, où ils vont être à ce moment-là amphibies, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt sous l'eau à ce moment-là. Et on a par exemple le triton marbré, qui est un gros triton d'une quinzaine de centimètres de long, qui lui va avoir toute une crête qui va pousser chez le mâle pendant cette période de reproduction. Alors lui, il est noir avec des taches vertes. Et donc voir un triton dans une mare en pleine nuit au mois de mars en garrigue est toujours une surprise très très intéressante et très fabuleuse, parce qu'on a vraiment l'impression de rencontrer un animal d'un autre âge. Alors les mares temporaires, elles ont aussi des menaces. Alors une des principales menaces, c'est les poissons. Finalement, justement, dans les mares temporaires, il n'y a pas de poissons. Mais parfois, dans des mares temporaires, il va y avoir des relâchés de poissons rouges ou des choses comme ça, qui vont manger absolument tous les œufs des amphibiens qu'on a vus, dont on a parlé juste avant. Et donc ça peut poser parfois un problème. Et puis surtout, le plus gros problème sur les mares temporaires, c'est que comme il y a de moins en moins de bergers, de moins en moins de troupeaux dans les garrigues, il y a de moins en moins de gens qui entretiennent ces lavognes. Et donc, du coup, elles ont tendance, avec le milieu qui se referme, à se recouvrir, à disparaître. Et donc, il est vrai que les mares temporaires sont une des particularités, un des milieux humides les plus caractéristiques de nos zones de garrigue, mais un milieu particulièrement fragile. Alors on va continuer sur d'autres exemples de choses qu'on peut voir en nature au printemps, mais avant ça, on s'écoute une petite musique.
Jamais trahi ses secrets, ça sent les champs verts et fleuris. Quand on retrouve ses amis, ça sent le retour d'un ami qui était parti chercher l'oubli d'une fille dont il était morgain. Ça sent les mômes plein les trottoirs qui jouent au foot les genoux en sang et qui se demandent sans croire ni croire qu'est-ce qui seront le prochain printemps. Ça sent les naissances par-ci et ça sent les mariages par-là et le bonheur celui qui est parti et l'autre bonheur celui qui reviendra. Et ça sent les nomades en fête dans une usine désaffectée qui font des rêves et qui se projettent dans le plus merveilleux de leurs étés. Ça sent la page cravée pour eux d'un pauvre chapiteau en fête qui d'un dernier souffle refleurit pour quelques lascars qui s'entêtent. Et moi, en cette saison, entre hiver et été, ça me revient. Ça fait déjà un an que tu m'as quitté. Oui, moi, en cette saison, entre hiver et été, je me souviens. Je crois que je vais avoir du mal à t'oublier.
On est sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade, et on parle du printemps. Alors, au mois de mars, vous avez bien vu, quand il y a du vent, quand il y a le mistral qui s'y met, ou même le matin, il peut encore faire bien froid. Et pourtant, à l'abri, derrière, au pied d'une falaise par exemple, au soleil, on va pouvoir avoir la température qui augmente. On est à la cagne, comme on dit. Et du coup, certains animaux l'ont remarqué, ça. Et du coup, ils vont sortir et se mettre, justement, à ces endroits particulièrement ensoleillés pour faire remonter la température. Vous l'aurez compris, ces animaux-là, ce sont ce qu'on appelle les animaux à sang-froid. Alors, cette expression n'est pas très bien choisie, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le sang-froid. Mais on les appelle, alors le terme savant, attendez, je l'ai écrit normalement, oui, c'est les poikilothermes. Donc les poikilothermes, ce sont des espèces dont la température du corps varie selon la température du milieu. S'il fait chaud dehors, leur corps va se réchauffer, s'il fait froid, leur corps va se refroidir. Alors c'est pas le cas de nous par exemple les humains. Nous on est des homéothermes, c'est-à-dire qu'on a notre température du corps qui est toujours à la même température. Et ce qui est assez compliqué d'ailleurs, parce que nous on peine, on a du mal à avoir toujours notre température qui reste à 37 degrés. C'est difficile, des fois il faut se couvrir, se réchauffer, avoir la fièvre, etc., transpirer parce qu'il fait trop chaud, etc., etc. Ces animaux-là, finalement, ils ont une autre façon de faire, c'est-à-dire que quand il fait chaud, eh ben leur température va augmenter. Quand il fait froid, eh ben ils vont tomber dans une sorte de léthargie et du coup être inactifs. Alors, ces animaux-là, ce sont essentiellement les reptiles, donc les lézards et les serpents, par exemple. Aujourd'hui, là, avec le mois de mars qui arrive, ils commencent à sortir un petit peu de leur état léthargique pour profiter de ces premiers rayons de soleil. Alors, dans ces espèces-là, on a particulièrement beaucoup de reptiles en zone de garrigue. On a notamment plusieurs espèces de lézards. Il y a le lézard qu'on appelle le lézard des murailles, qui est particulièrement commun, qu'on va trouver sur tous les murs, même en pleine ville, et qui est un petit lézard peut même parfois rentrer dans les maisons, hein, on le voit de temps en temps. Il a un cousin qui est plutôt le lézard des campagnes, qui est le lézard hispanique, qui est vraiment un méditerranéen strict, qu'on va trouver vraiment sur les falaises. Et puis, il a un autre cousin, un grand, grand cousin, qui est le lézard ocellé. Le lézard ocellé, c'est un animal sorti aussi de la préhistoire. C'est un lézard qui peut faire jusqu'à 60-70 cm de long. Donc un très très gros lézard, avec qu'on appelle lézard ocellé parce qu'il a des sortes de gros ronds, des ocelles bleues sur tout le corps. Ce lézard est particulièrement rare, hein, on va le trouver dans les zones très sèches, très rocailleuses. Et il est particulièrement présent en zone méditerranéenne, dans les zones de garrigue et plus particulièrement dans les zones où il y a du pastoralisme et de l'élevage. Donc ça, c'est au niveau des lézards, mais dans les reptiles, il y a aussi les serpents. Les serpents, c'est chez nous essentiellement des couleuvres. Les vipères sont quasiment pas présentes dans la zone des garrigues. Je dis quasiment parce que il y a la fameuse vipère des garrigues dont on parle de temps en temps, mais que personne n'a jamais vue. Il y aurait eu quelques cas par-ci par-là, mais c'est exceptionnel. La plupart des serpents qu'on va trouver sont des couleuvres. Les couleuvres, vous savez, on les reconnaît à leur œil rond. Elles ont un œil tout rond et des grosses ocelles sur la tête. Par contre, si elles sont pas dangereuses directement, contrairement aux vipères, les couleuvres peuvent être très impressionnantes. Elles peuvent être très très grandes, notamment. C'est le cas, par exemple, de la couleuvre de Montpellier, qui est une très très grande couleuvre qui atteint les 2 mètres de long et qu'on trouve bien souvent dans les garrigues. Parfois, elles ont tendance aussi à se réchauffer sur les routes, ce qui leur pose pas mal de soucis hein, lorsque des voitures passent. Et donc la couleuvre de Montpellier, elle a une particularité, c'est qu'elle a des crochets avec un venin, mais ces crochets sont complètement au fond de la gorge, ce qui fait que en fait elles tuent leur proie une fois qu'elles les ont commencé à avaler. Une autre espèce de couleuvre qu'on trouve dans les garrigues et très méditerranéenne, c'est la couleuvre à échelons. On l'appelle la couleuvre à échelons parce que les jeunes notamment, quand ont sur le dos comme un dessin d'une échelle. Ça fait comme une échelle noire là, sur leur dos. La couleuvre à échelons est un peu moins est quand même bien méditerranéenne, mais un peu moins dans les milieux ouverts, puisqu'elle aime bien aussi les taillis de chêne vert. Elle peut être un peu arboricole de temps en temps. Alors, il y a les couleuvres, il y a les lézards, et puis il y a ceux qui est un peu entre les deux. Et il y a notamment une espèce qu'on trouve chez nous qui est le ceps strié. Alors c'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup de S. Le ceps strié. Le ceps strié, c'est alors c'est entre le lézard et le serpent. On dirait un petit lézard, mais ses pattes sont complètement atrophiées. C'est des tout petites pattes. Ce qui fait que quand on le voit au sol, on dirait qu'il court, qui nage en fait sur le sol. Alors le ceps strié, il y en a beaucoup dans les garrigues, très difficile à voir parce que c'est très furtif, ça part très très rapidement. Et donc on voit bien là les génies de l'évolution avec ces chaînons manquants entre le lézard et le serpent. Alors toutes ces espèces de reptiles font le bonheur d'un rapace. Ce rapace, c'est le circaète Jean Leblanc. Le circaète Jean Leblanc, c'est un rapace migrateur. Il est actuellement en train de revenir dans nos garrigues au mois de mars. C'est la période où il revient de l'Afrique, où il a passé l'hiver. Et ce rapace, qui est un grand rapace de près de 1,80 m d'envergure, a la particularité de se nourrir principalement de reptiles. Donc il va attraper des serpents, des lézards, qu'il va trouver directement dans les zones ouvertes de garrigues. Le circaète Jean Leblanc, donc comme je disais, un grand rapace de près de 1,80 m d'envergure, avec il a le dessous plutôt blanc, avec la tête un marron, on va dire. Et ce rapace a une particularité aussi, c'est qu'il a une tendance à faire du vol sur place. Donc un gros rapace qui fait du vol stationnaire au-dessus de la garrigue. Vous allez bientôt pouvoir le voir dès la fin du mois. C'est le circaète Jean Leblanc. Alors, toutes ces espèces, on l'a vu, de reptiles, de lézards, de couleuvres, vont commencer à se disséminer, à sortir dans les garrigues pour faire le bonheur de la chaîne alimentaire, notamment du circaète. Alors on va revenir sur les oiseaux en garrigue après une petite pause musicale.
Musique.
Alors quand on parle de printemps, quand on pense au printemps, on pense naturellement au chant des oiseaux. Parce que c'est au printemps que va commencer la grande symphonie des chants d'oiseaux. Notamment dans les garrigues, enfin pas que dans les garrigues, mais dans les garrigues aussi. Alors les oiseaux, vous le savez, ils ont deux façons de communiquer. Il y a les cris, qui eux sont des cris, soit des cris d'alerte, des cris de contact, etc., qui vont utiliser un peu tout le temps dans l'année. Et il y a les chants. Les chants qui ont pour but principal, c'est de défendre un territoire et d'attirer les femelles sur son territoire. Donc c'est essentiellement pour la période de nidification, la période de reproduction, qui est le printemps. Alors, en garrigue, on a des espèces particulières qu'on appelle les fauvettes. Des fauvettes méditerranéennes, qui sont des oiseaux quasiment invisibles la plupart du temps, car complètement enfouis dans le fond de la végétation, dans le fond des buissons, n'en sortant quasiment jamais. Sauf au printemps, là, au mois de mars, au mois d'avril, où il va y avoir la parade, la protection de du territoire, l'envie d'attirer les femelles, et qui va faire qu'on va avoir ces petites fauvettes qui vont s'envoler dans les airs, au-dessus de leurs buissons, parfois même se poster en haut d'une branche pour chanter, pour montrer son territoire, pour parader, et ensuite redisparaître très rapidement. Alors, pour les ornithologues, connaître les chants des oiseaux est particulièrement intéressant parce que si on faisait des inventaires qu'à partir des oiseaux que l'on voit, on raterait la plupart des espèces. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qu'on ne fait quasiment que entendre. Alors, on parle de chants d'oiseaux, on va écouter justement le chant d'une de ces fauvettes qu'on entend en garrigue. Cette fauvette qu'on vient d'entendre, c'est la fauvette pitchou. On l'appelle la fauvette pitchou, c'est une toute petite fauvette que l'on trouve particulièrement de façon importante dans les garrigues et qui a dans son aire de distribution, elle remonte également au niveau des Landes atlantiques puisqu'on peut la trouver sur tout le littoral aquitain jusqu'en Bretagne, au niveau des Landes et après sur tout le pourtour méditerranéen. Alors, il y a une petite particularité chez ces fauvettes méditerranéennes, c'est qu'il n'y a pas une espèce, mais six espèces différentes. Alors, la question, c'est de se dire pourquoi ? Pourquoi pas une, mais six espèces ? C'est qu'en fait, elles se sont spécialisées, elles se sont adaptées chacune à un type de milieu bien particulier. Et donc là, on a une adaptation, une spécialisation qui est allé très très loin dans le règne animal. Alors, on a chacune s'est adaptée selon la hauteur de la végétation. Comme vous le savez, des fois on voit des garrigues très très basses, et des fois il y a des garrigues qui sont hautes quasiment jusqu'à arriver à un stade forestier. C'est toute la fameuse évolution de la végétation des garrigues, hein, des milieux très ouverts où passent les moutons, jusqu'à des milieux très fermés de forêt, avec tout un tas d'intermédiaires. Et chacun de ces intermédiaires est occupé par une fauvette en particulier. Alors si on prend dans l'ordre du plus bas jusqu'au plus haut dans la garrigue, on a en premier lieu une toute petite fauvette qu'on appelle la fauvette à lunettes. La fauvette à lunettes, elle va vivre dans des milieux très très bas. On va la trouver dans des milieux où la végétation fait à peine une vingtaine de centimètres, 30 centimètres. Elle va nicher quasiment au sol. Cette fauvette est particulièrement rare. Pourquoi ? Parce que ces milieux très très rares sont devenus également très rares. On va la trouver notamment dans des zones où est passé un incendie, par exemple. Quelques années après, hop, on va trouver la fauvette à lunettes qui va occuper cet espace. Puis, la végétation va continuer à pousser. Et petit à petit, on va avoir des buissons bas de 40, 50 cm de haut. Alors ça va être, par exemple, des grandes zones de chênes kermès. Cette végétation-là va être occupée par une deuxième fauvette. C'est qui va prendre la place de la fauvette à lunettes, c'est la fauvette pitchou, celle qu'on vient d'entendre tout à l'heure. La fauvette pitchou qui est un peu toute un rouge brique un peu sur le dessous du corps et qui va occuper ces garrigues à chaîne kermès, ces garrigues relativement ouvertes. Alors elle est un peu plus commune que la fauvette à lunettes parce que ce milieu-là est aussi un peu plus commun sur nos garrigues. Et puis si on imagine une garrigue qui commence à s'embuissonner de plus en plus avec des genévriers cades, avec des buis, etc., qui vont pousser, va apparaître une nouvelle fauvette, qui est la fauvette mélanocéphale. Alors, comme dit son nom, la fauvette mélanocéphale a la tête entièrement noire, avec le tour de l'œil rouge et la gorge très très blanche. La fauvette mélanocéphale va vivre, du coup, dans ces milieux un petit peu plus haut. Alors, celle-là, elle est particulièrement commune, parce que ces milieux intermédiaires sont très communs, et on peut la trouver même dans les zones périurbaines où elle va venir. Donc une troisième fauvette méditerranéenne bien particulière à ces milieux-là. Et puis dans nos garrigues, après les buissons, vont commencer à apparaître certains arbres, certains arbustes. Et là, hop, une nouvelle fauvette qui apparaît. Et cette fauvette, c'est la fauvette Orphée. Donc la fauvette Orphée, on l'appelle la fauvette Orphée, c'est une fauvette qui est particulièrement commune, notamment dans l'Est méditerranéen, qui est une fauvette un peu plus grosse, très blanche sur le dessous de la gorge, et qui a un chant très puissant. Donc cette fauvette-là est particulièrement commune dans ces milieux où commencent à apparaître quelques arbres. Alors ce qui est intéressant, par exemple, si on va dans la plaine de Pompignan, par exemple, juste à côté, on va voir ces différents étages de végétation et toutes ces espèces qui vont être présentes selon ces étages de végétation. Et puis, comme vous le savez, ensuite arrive la forêt. La forêt qui est d'abord pas complètement dense. Il va y avoir quelques chênes, mais encore beaucoup d'espaces d'éclaircies, on va dire, dans cette forêt. Et là, il y a une nouvelle fauvette qui apparaît, qui est la fauvette passerinette. La fauvette passerinette, qui est aussi orange dessous, et qui, elle, va chanter plutôt en hauteur, hein, sur des arbres de 5-6 mètres de haut. Donc la fauvette à lunettes, la fauvette pitchou, la fauvette mélanocéphale, la fauvette orphée, la fauvette passerinette, tout ça, ce sont les fauvettes qu'on dit des fauvettes méditerranéennes. C'est-à-dire qu'on va vraiment les trouver dans nos zones, notamment dans nos zones de garrigue. Et puis après, quand la forêt vraiment prend le dessus complètement et qu'on va avoir des sous-bois plus humides, va apparaître une dernière fauvette qui, elle, n'est pas du tout méditerranéenne. C'est la fauvette à tête noire que, elle, on trouve un peu partout en France et qui va pouvoir être présente dans ces zones-là que lorsqu'on a un sous-bois forestier beaucoup plus dense, beaucoup plus frais. Alors, je dis frais parce que des fois, c'est relatif, hein, bien évidemment. Mais on voit vraiment tout un cortège d'espèces qui évoluent avec la végétation. Donc c'est assez intéressant justement de s'intéresser aux fauvettes et de voir justement cette relation entre la végétation et le type d'espèce que l'on voit. Alors, pour les fauvettes, le mieux c'est de les reconnaître au champ, qui va nous permettre de bien les identifier. Et c'est la bonne saison, là maintenant, qui démarre avec ce mois de mars, pour identifier ces différents oiseaux au champ. Alors, on va arrêter là toute cette description des espèces qu'on trouve au printemps dans nos garrigues, parce que la liste serait bien, bien plus longue. Et on va se donner rendez-vous dans 15 jours, où on parlera cette fois d'une autre particularité en garrigue que l'on peut trouver au printemps, c'est les salades sauvages. On vous en parlera plus dans pas longtemps. À bientôt!
De René Rousseau et Marguerite Monod, enfin le printemps. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, voilà. La voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou au son de l'accordéon, qui court le guilledou en poussant la chanson, entend comme sa chahute dans tous les palpitants. L'hiver se tire des flûtes, enfin le printemps. Ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant tinter les muguets. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Y a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes, je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, je voltige dans du bleu, je vois doubler, c'est mieux. Vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux. Mon amour, il fout le camp.